Vous écoutez
RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Bonjour à tous, c'est l'heure que l'on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. On va revivre ensemble les meilleurs moments de Neumann Le Chiffre, sans Neumann et sans Le Chiffre, puisqu'il n'y a que moi qui suis là aujourd'hui. Mais venez, venez discuter avec moi. On va parler de famille, d'organisation. C'est le début des vacances, certains sont peut-être déjà partis. Comment se passent les échanges avec votre famille, vos amis, vos voisins de plage, vos collègues de camping, à table, à l'apéro, en jouant aux cartes? Est-ce que vous évitez le sujet sanitaire? Est-ce que vous préférez ne pas mélanger à table les sceptiques sur les vaccins et les pro-passeports sanitaires? Je vous attends au 32-16. On va tenter de pacifier les relations avec une psychiatre et épidémiologiste. Ça sera dans un petit quart d'heure. Mais avant d'aller se la couler douce et de prendre l'apéro, encore faut-il prendre le départ sur les routes, dans les gares, dans les aéroports. Et quand on voyage avec des enfants, notamment petits, eh bien parfois ça tourne vite au cauchemar pour les parents, mais aussi pour les autres. Parfois dans les trains, c'est pas facile. On entend des célibataires qui soufflent. Je les entends d'ici. Dans un instant, on sera avec Shiva Shafi, qui est fondatrice de la start-up Parents Épuisés, qui a plein de trucs et astuces à nous donner. Mais avant, on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16.
Et on est avec Steve, qui nous appelle depuis Salone, c'est en Gironde. Bonjour Steve.
Bonjour Laure.
Toi, tu as combien d'enfants, Steve?
Alors, moi j'en ai 3 et ma conjointe en a 3 aussi, donc on en a 6 au total.
Donc, vous prenez 2 voitures?
Donc, 2 voitures, parce que bah, y a 6 enfants et un gros chien, un boxeur.
Ouais, donc 2 voitures, un adulte par voiture, forcément,
c'est
qui
mieux,
conduit.
Ouais.
Et ça se passe comment?
Eh ben, ça se passe très très bien. Nous, il n'y a pas de négociation possible chez nous. Donc en fait, tout le monde suit les règles.
Alors attends, ils ont quel âge?
Donc on a 7 ans, on a 8 ans, on a 9 ans, on a 11 ans, on a 13 ans et 16 ans bientôt.
Donc t'as plus de bébé déjà?
Non, j'ai plus de bébé.
Donc t'es déjà vers des enfants qui comprennent quand tu leur dis quelque chose pour la négociation.
Ah oui, ils comprennent très bien. Oui, oui, oui.
Est-ce que depuis des années, vous jouez dans la voiture? C'est-à-dire vous dites, on compte les voitures rouges, on fait des devinettes
Alors oui, mais c'est pas forcément le truc du voyage. Mais disons qu'avant chaque voyage, ils préparent un petit sac,
ouais,
avec de l'occupation, leurs propres jouets, la console. Mais c'est vraiment un minimum de chez minimum, parce que la console chez nous c'est pas trop ça. Même s'ils y ont droit, c'est pas le truc absolu. Donc des bouquins, des jouets, quelques gâteaux, une petite gourde, et tout le monde s'assoit et tout le monde se tait.
On n'a pas le droit
de parler. Si. Non.
Le droit de discuter quand même.
Non, c'est-à-dire tout le monde sautait, il y a pas de ralage quoi, tout le monde s'assoit,
il y a pas de bagarre.
Non, il y a pas de bagarre, il y a pas de bagarre.
Parce que ça c'est l'horreur quand même en voiture, quand à l'arrière t'as des enfants qui se disputent ou qui se battent.
Bah, il peut pas y avoir de bagarre parce que bah les règles elles sont bien définies de base, et de base il y a pas de raison de se disputer parce qu'ils sont frères et sœurs. Donc c'est cohésion totale et ça roule comme ça quoi.
Donc chez toi ça se passe bien, nickel, sans problème. Mais tu prends pas le train, jamais?
Non, jamais prévu. Ouais. Non, on pourrait le prendre, ça changerait pas grand-chose.
Ouais, tu crois qu'il serait aussi sage?
Ah ouais, tout le monde suivrait, sans problème.
Bon,
ah
bah, ouais. Chez toi, Steve, tout se passe très bien. Bon, je t'avoue que c'est pas le cas de chez tout le monde. Il y a quand même des voyages en voiture où tu arrives, tu es farci comme un chou-fleur quand même. On est avec Shiva Shafi. Bonjour, fondatrice de la start-up Parents Épuisés. Parents Épuisés, c'est le premier média décalé du parent qui a décidé de rire de sa condition. C'est ça qu'il faut faire, Shiva. Il faut rigoler de ses problèmes de parents.
Oui, absolument, pardon. Bonjour Laure.
Bonjour.
J'entendais ce témoignage et ça me fait vraiment très envie. Je pense qu'il faut qu'on ait une interview nos fils de papa, parce que on ne va pas avoir le mode d'emploi chez les parents épuisés, ça c'est sûr.
Parce que globalement, c'est dur, un voyage avec des enfants.
Ah, mais globalement, c'est dur, c'est une épreuve de nerfs qui est complètement dingue. Et évidemment, c'est encore plus difficile avec des petits qui comprennent moins bien, qui sont moins autonomes, etc. Mais ça continue à l'être quand ils grandissent, surtout quand il y en a beaucoup, surtout aussi sur des trajets longs. Et en plus, il y a aussi l'angoisse parentale du voyage, la peur d'oublier quelque chose, la fatigue, le besoin de faire des pauses, la peur de gêner l'entourage, par exemple, dans le train. Donc, ouais, il y a tout un tas de choses que les enfants ressentent en plus.
Alors, vous avez lancé des kits de survie pour parents et pour parents épuisés. Il y a le kit Je m'ennuie, il y a le kit Grasse Mat, En voyage, Apéro. C'est quoi la clé? C'est de trouver sans arrêt des choses ludiques?
Exactement. En fait, l'idée, c'est de transformer des moments de stress, d'impatience et de moments hyper tendus entre les parents et les enfants, de les transformer en occasion de partage et en moment de joie. Et du coup, d'aider un peu le parent qui souvent n'a plus d'inspi quand il est en plus fatigué et en vadrouille, avec ces petits jeux de cartes, donc de 54 cartes qui sont très faciles, il n'y a pas de règles compliquées, sont des petits gages, c'est nomade, c'est anti-écran aussi, donc c'est très déculpabilisant pour le parent qui essaie de lutter contre les écrans. Et en fait, les enfants s'ennuient très très vite, et du coup là, ils ont plein de petits gages qu'ils peuvent dégainer à la suite. Le faire chacun leur tour, les parents peuvent le faire aussi, et c'est extrêmement ludique, et du coup tout le monde passe un bon moment, en tout cas au moins pour une bonne demi-heure, hein. Je garantis pas les 8 heures.
Ah, une bonne demi-heure, bah, c'est déjà pas mal, ça permet un peu de se calmer, mais tout est bon, il faut quoi? On cite les légumes qu'on connaît, on compte les voitures, quand on a fini avec les cartes?
Alors, dans les cartes, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a des cartes de connaissances. Donc, par exemple, cite trois villes que tu connais. Il y a des choses d'imagination où il faut inventer une histoire avec les trois cartes. Des jeux d'observation aussi où il faut trouver des plats qui terminent par tel ou tel chiffre. Et une fois qu'on a terminé, il faut avoir évidemment plein d'autres idées. Nous, on a une solution qui marche pas mal avec les un petit peu plus grands. C'est la musique. En fait, c'est un moment où on peut écouter de la musique tous ensemble, où on est obligé d'être réunis. Et c'est vrai que les enfants ont leur petit monde à eux qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est le moment, en fait, de leur dire « Très bien, maintenant, on va choisir chacun notre tour un morceau de musique. » Ça marche hyper bien, même chez des assez petits. Ils choisissent leur morceau et puis on tourne comme ça. Et on essaie d'être sans jugement. Par exemple, si un ado qui aime le reggaeton et qu'on n'aime pas, on va quand même écouter et trouver ça rigolo. Si un des parents, c'est vraiment un cliché, mais veut mettre un morceau de musique classique ou autre, et ben les enfants vont être obligés d'écouter. Et en fait, tout le monde joue le jeu, et ça, c'est des moments qui peuvent durer longtemps et qui sont hyper sympas.
C'est vrai que la musique, ça marche très très bien en voiture. Il y a le problème du train et de l'avion et du regard des autres. Moi, je me souviens avoir pris un billet en première classe avec un bébé pour avoir un tout petit peu de place et avoir des voisins qui, rien qu'en me voyant arriver, pouffaient d'avance de désespoir.
Oui, c'est clair que les gens oublient en plus, quand ils ont eu des enfants eux-mêmes, ils oublient cette période-là et ils sont parfois très très durs. Donc là, le tout, c'est d'avoir un sac avec énormément de choses différentes à dégainer. Et puis évidemment, le Graal, c'est quand on arrive à les faire dormir, mais c'est pas toujours évident. Mais encore une fois, la musique peut aider, pas sur un bébé, mais sur des petits qui peuvent déjà commencer à écouter. On peut leur faire écouter de la musique, ils vont être sages à ce moment-là. Après, on va pas se mentir, il y a quand même aussi les écrans qui aident bien pendant les voyages en train. C'est hyper magique en fait. Hein. Donc, on n'est pas obligé de les laisser jouer à la console. Hein. On peut très bien leur montrer un film, un dessin animé et se dire que c'est le moment où il y a un peu de lâcher prise là-dessus parce qu'il y a tellement de contraintes par ailleurs. Et du coup, il y a une espèce de deal comme ça qui marche très très bien. Il faut pas être anti-écran tout le temps en fait. Hein.
Puis ça peut être le Graal pour la fin du voyage.
Oui.
Si t'es sage.
Exactement. Exactement. Si les enfants se tiennent bien, ils ont droit à un film à la fin. Et voilà. Et avant, il faut sortir tous les jeux qu'on peut avoir. Donc ça peut être des jeux de cartes, mais c'est vrai que ça peut faire du bruit les jeux de cartes hein, pour le coup en train. La lecture en train, c'est aussi quelque chose qui marche. Alors c'est pareil, hein, ça va pas marcher les 8 heures, mais le tout, c'est vraiment d'avoir suffisamment de choses à dégainer. Et en effet, c'est très bien. J'entendais ce papa dire que les enfants préparaient eux-mêmes un sac. C'est bien qu'ils choisissent eux-mêmes en fait les jouets.
Ah, c'est ce que faisait Steve. Chacun prévoit pour voilà. Son voyage ce qu'il a envie
exactement.
De faire.
Et le parent prévoit ensuite en backup, une fois qu'il s'est ennuyé, enfin qu'il a déjà tout utilisé de ses objets à lui, le parent peut dégainer ce qu'il a prévu lui. Donc si c'est des jeux de société, les jeux de société, si c'est des livres, etc. Et normalement, ça fonctionne assez longtemps.
Et Steve, qui est toujours avec nous, qui est notre père parfait, qui va donc être interviewé par toute la France pour savoir comment il fait. Steve, t'es pas face au « je m'ennuie » terrifiant quand même, au bout d'un moment, je m'ennuie.
Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le faire le tour du sac. Et après, tout ce qui est musique, tout ce qui est jeu, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise, ou des jeux de mémoire, ou des choses comme ça, ça marche très très bien. Et c'est vraiment ouais. Ça, c'est la clé, c'est d'alterner en fait. Et surtout de faire en sorte qu'on est tous ensemble dans la même galère. C'est-à-dire que papa, ça l'amuse pas non plus de conduire, autant que les enfants, ça les amuse pas de rester assis 5 heures d'affilée sur le siège, quoi. Voilà.
Et Shiva, le problème quand même à gérer, c'est parfois la colère. Bon, alors Steve, ses enfants sont un peu plus grands, donc ils font pas de colère, mais c'est le problème de l'enfant de 15
ah non,
mois.
Ils n'ont jamais fait de colère.
Ah non, mais Steve, non, mais j'y crois pas deux secondes.
Ah non, c'est pas possible. Une colère, c'est pas possible.
Steve, tu n'as jamais. Attends, tu as combien d'enfants? T'as dit 3 à toi, toi, tu accompagnes. Tu as jamais été face à une colère?
Non, non, c'est pas possible.
Moi, je te comprends.
Si c'est bien expliqué avant, si tout est anticipé. S'il y a aucune raison de faire une colère, s'il y a une colère, c'est qu'il y a une frustration. Donc, s'il y a une frustration, c'est qu'on a mal expliqué avant.
Shiva, moi j'entends, hein, je suis d'accord, moi je suis partisane de parler énormément avec les enfants, mais parfois je suis confrontée à des problèmes que je ne peux pas gérer.
Alors, moi je pense que des colères, il y en a forcément, parce qu'il y a forcément des frustrations. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours creuser pour comprendre ce qu'il y a derrière la colère. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour gérer ce genre de situation, il faut faire un maximum de pauses. Donc, si c'est en voiture, on fait des pauses en voiture. Si c'est en train, on fait un petit tour de wagon. Mais il faut un peu changer de paysage, il faut casser le rythme et avoir des moments où on peut un peu s'isoler. Donc, en train, on se met dans les compartiments là, du milieu ou dans le wagon-bar ou autre et on essaye de discuter. Ça, c'est si on peut, hein, si on est plusieurs parents, si on est des deux parents, par exemple, avec tous les enfants, on peut le faire. Si on est tout seul, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend de l'âge des enfants. Mais en tout cas, il faut provoquer des moments où on peut séparer un petit peu les enfants.
Bon, Steve, il est absolument parfait. On est avec Amandine qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Salut Amandine, toi tu es conseillère en séjour tourisme. Tu as des enfants de quel âge?
Alors j'ai un enfant d'un an et demi. Ouais. Par contre, du coup, c'est pas trop avec lui qu'on joue, le pauvre. Il est encore trop petit.
Ouais.
Mais en fait, mon mari et moi, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a un jeu complètement stupide qui nous amuse beaucoup.
Ouais.
Et on a perverti pas mal de nos amis et des enfants qu'on a pris en voiture avec nous. C'est le jeu Twingo. Donc on se récompense d'une pince à chaque fois qu'on voit une Twingo sur la route.
Attends, tu pinces la personne qui est à côté de toi à chaque fois que tu vois une Twingo, c'est ça?
C'est ça, mais seulement les Twingo phase 1. Et on a pimenté le jeu. Mais quand je le dis, c'est complètement stupide, mais ça nous fait bien rire.
Mais c'est drôle, ouais.
Parce qu'en définitive, il faut aller le plus vite possible. Si on voit une Twingo avant l'autre, mais que l'autre commence à nous annoncer, parce qu'il faut annoncer qu'on va faire Twingo, forcément.
Attends, t'annonces et une fois que tu la vois, tu pinces.
C'est ça, on est dans la circulation, on est en voiture. Si on voit la Twingo, il faut dire Twingo et pincer aussitôt. Et si la personne n'est pas assez rapide pour faire sa pince, on a la possibilité, pour éviter de se faire pincer, de dire contre Twingo. Et en fonction du nombre de Twingo ou de la couleur de la Twingo, eh bien c'est un combo. C'est-à-dire que si c'est une Twingo verte, c'est 10 pinces.
Ah ouais, mais c'est génial Amandine. Bon alors, le problème c'est qu'il faut quand même jouer avec des enfants qui peuvent identifier une Twingo. Donc c'est vrai que la 15 mois ton fils, c'est pas possible. Phase 1. Non mais je suis d'accord, mais c'est très précis. Donc c'est la framboise, la bleue, la jaune, là c'est les toutes premières Twingo.
Ouais, c'est ça. Elles sont fun, on en voit de partout. Il y a des quartiers nous on s'amuse à passer extrêmement.
Il y a des quartiers à Twingo.
Il y a des quartiers à Twingo, tout à fait. Il y a des quartiers où on sait qu'on va trouver de la Twingo et on passe extrait des détours pour finir les points.
Ah oui. Ah mais ça marche. Et Shiva, ça, typiquement le jeu d'Amandine, bon Twingo ou autre chose, il faut jouer quoi.
Mais c'est génial et c'est exactement l'idée du kit de survie. C'est des petits jeux comme ça qui ne sont pas du tout stupides en fait. Ils sont des jeux d'observation et de concentration et qui font qu'en fait on gamifie un moment qui n'est pas censé être un moment de jeu devient un moment de jeu à plusieurs. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire.
Voilà, jouer en permanence. C'est ça qui fait passer le temps pendant les transports avec les enfants et même entre adultes puisque Amandine elle joue à Twingo avec tout le monde. Merci beaucoup Amandine d'être venue nous raconter ce jeu pour pimenter nos trajets. Ça marche évidemment pas si vous prenez le train, mais il faut trouver autre chose. Un grand merci à Shiva Shafi d'avoir été avec nous, fondatrice de la start-up Parents Épuisés. Allez voir sur son site Parents Épuisés, il y a plein d'idées pour les parents qui sont épuisés comme son nom l'indique. Dans un instant, on va parler des conversations en famille. Est-ce qu'il faut éviter totalement de parler du Covid? On vous attend au 32-16 si vous avez un oncle qui ne veut pas se faire vacciner et une tante qui est pro-passe sanitaire. Comment ça va se passer autour de l'apéro? On vous attend. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre.
RMC. RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sans Neumann Le Chypre et sans Laurent Neumann. Mais moi, je suis là pour discuter ensemble. On va revivre les meilleurs moments de l'émission dans un instant, notamment autour d'Amazon. Vous le savez, Amazon, grand sujet de débat et de discussion entre Emmanuel et Laurent. Mais avant, on va reparler du Covid. Le Covid qui s'est invité partout dans nos vies, dans notre organisation, nos choix personnels, nos discussions avec nos proches. C'est le début des vacances. Certains sont peut-être déjà partis. Comment ça se passe avec votre famille, vos amis, vos voisins de plage, vos collègues de camping, à table, à l'apéro, en jouant aux cartes? Est-ce que vous évitez ce sujet sanitaire? Est-ce que vous préférez ne pas mélanger les sceptiques et les pro-passeports sanitaires? On va tenter de pacifier les relations avec une psychiatre épidémiologiste qui va être avec nous dans un instant. On vous attend au 32-16 avec vos problématiques personnelles et on va aller justement voir Dylan.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Dylan qui nous appelle de Fleury-les-Aubrais, c'est dans le Loiret. Bonjour Dylan.
Bonjour Laure, bonjour à tous.
Toi, tu es chauffeur routier, Dylan. Ta sœur n'est pas vaccinée et tu préfères ne pas la voir.
Ouais, tout à fait, tout à fait. En plus, je suis asthmatique.
Ouais.
Et toute ma famille l'a fait, sauf elle. Et elle refuse catégoriquement. Hein. Pourtant, elle travaille en maison de retraite.
Ouais.
Tout comme ma mère. Et voilà, moi, j'ai préféré. Plutôt que de la voir et de s'engueuler quoi directement, hein, parce qu'on a un caractère très fort elle et moi, j'ai dit directement tant que tu le feras pas, je préfère pas te voir et voilà,
conversation est pas possible, c'est-à-dire que vous arrivez plus à vous parler.
Non, on arrive à parler, mais il va y avoir une petite étincelle et ça va partir, ça part tout de suite, quoi, en fait. C'est ça le problème que j'ai avec ma sœur depuis X temps, mais donc voilà. Mais, ouais, il y a pas de sujet à discuter dessus, quoi.
Dylan, on est avec Viviane Coves Masfetti. Pardon. Bonjour Viviane. Merci d'être avec nous, psychiatre et épidémiologiste. Viviane, vous entendez Dylan nous parler de la situation avec sa sœur. Il préfère carrément ne plus se voir pour éviter le conflit. Est-ce qu'il faut toujours fuir les conflits ou parfois il faut rentrer frontalement dedans?
Ben, moi, je pense que Dylan, il est plein de bon sens. Je pense que là, on est sur des sujets qui sont très profonds. C'est possible, il vient de dire qu'avec sa sœur, c'est peut-être pas le premier conflit. Je pense que si sa sœur, il est asthmatique, si sa sœur était empathique, je pense qu'elle se prescripterait au contraire pour se faire vacciner. Donc je pense qu'ils sont déjà dans des rapports peut-être un peu tendus et il a raison. Il a raison, c'est pas la peine de se disputer, d'autant plus qu'il a pas dit qu'il la verrait plus jamais de sa vie. Il fait pas une situation dramatique. Puis si j'ai bien compris, si elle travaille dans une maison de retraite, là ça va devenir très très compliqué.
Mais Viviane, est-ce que ça veut dire que le Covid, c'est un peu la goutte d'eau qui va mettre sur toutes les relations familiales, peut-être parfois déjà un peu compliquées, une petite couche supplémentaire?
Ben, je dirais que le Covid, il fait qu'amplifier. C'est-à-dire, c'est pas le Covid qui crée le problème. Il y a plein de familles où les gens sont pas tout à fait d'accord, mais ils arrivent à trouver des compromis. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir peur d'être atteint et entre discuter de la vaccination. Il y a eu quand même tout un moment où les gens, simplement, ils avaient peur. Et je pense que Dylan, malheureusement, il est dans cette situation. Si sa sœur travaille avec le public, elle peut l'attraper, elle peut lui passer. C'est une réalité.
Mais ça crée des nouvelles scissions, cette crise sanitaire, des nouveaux conflits qu'on n'avait pas vu venir, des choix personnels qui s'imposent à des familles. C'est compliqué, quoi.
Moi, je pense personnellement que le Covid ne crée pas. Je pense que le Covid met en lumière. Je pense que, en théorie, si on a une certaine harmonie dans une famille, les gens, je ne veux pas dire qu'ils pensent tous pareil, bien entendu que non. Mais je pense sur des choses vraiment importantes comme la mise en danger de la santé d'autrui. C'est quand même, a priori, les familles sont quand même assez solidaires là-dessus. Si elles ne le sont pas, j'ai du mal à penser que le Covid crée ça. Cette attitude, elle devait quand même préexister.
En fait, vous pouvez très bien avoir votre sœur qui est infirmière ou travaille dans un EHPAD depuis toujours, et comme la question ne s'est jamais posée, vous vous apercevez là qu'elle ne veut pas se faire vacciner, donc vous pouvez questionner complètement son engagement, alors que ce type de conversation ne serait jamais arrivé sans le Covid.
Ça,
Qu'est-ce qu'il en dit, Dylan?
Tout à fait, bien sûr, mais ça ne me serait jamais venu à l'esprit de poser ce genre de questions à ma sœur. Et c'est vrai que le Covid fait que maintenant, on se pose tout un tas de questions par rapport à notre famille ou même par rapport à nos amis, hein, qu'ils soient proches ou loin. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Moi, j'ai essayé d'appeler au maximum des amis pour savoir comment ils allaient, prendre des nouvelles de temps en temps. Parce que le confinement a fait que tout le monde, plus personne ne se voyait, quoi. Et c'est, pour moi, c'est la solution claire et nette, le vaccin. Voilà, pour qu'on arrête de, pour plus qu'on se fasse chier, quoi. Excusez-moi du terme, hein. Mais c'est comme ça, hein. C'est, faut le faire. Voilà.
Viviane, qu'est-ce que vous conseillez, vous, à titre, enfin, en tant que psychiatre, dans cette gestion du conflit, d'éviter le sujet?
Alors déjà, entre guillemets, c'est pas de la psychiatrie. Là, on est en train de parler de la vie normale. Enfin, je veux dire, les conflits dont on se parle, c'est la vie normale. Là, c'est pas de la psychiatrie, ça n'a rien de malade. Enfin, je veux dire, on a le droit, je pense que là, ça se passe sur le Covid, mais enfin, les gens ont le droit de pas être d'accord sur pour qui on vote. Vous voyez, toutes les familles sont pas uniformes au niveau politique, par exemple. Il y en a qui ont des positions beaucoup plus radicales que d'autres. Enfin, vous voyez, les discussions dans les familles...
C'est pas grave de discuter, de pas être d'accord.
Alors, je pense que non, c'est pas grave, ça fait partie vraiment de la vie de pas être d'accord. Alors après, il y a le pas d'accord et le pas d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce qu'on peut discuter, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel qu'on ne peut plus discuter. Et je pense qu'effectivement, quand il commence à s'agir, je veux dire, vous êtes asthmatique, attraper le Covid, c'est quand même pas un bon plan, donc ça veut dire que vous avez quand même peur pour vous. Donc quand on commence à rentrer, puis ceux qui ont peur du vaccin, certains d'entre eux sont sérieusement persuadés que c'est dangereux. Donc ça veut dire, à partir du moment où on rentre dans cette sphère, d'un côté de l'irrationnel, parce que la plupart du gens ont des opinions, en fait, ils n'ont pas la formation scientifique sérieuse pour évaluer les risques. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent différentes télés ou ils écoutent différentes radios ou ils croient différents informateurs, mais ils ne sont pas en ligne directe. Donc, si vous voulez, c'est quelque part s'en rendre compte ou s'en rendre pas compte, mais c'est quand même des choix. Le choix de croire celui-ci ou de croire celui-là, en fonction d'autres choses qui résonnent chez eux. Donc, quand je pense que ça devient un sujet tellement important et tellement intime et tellement angoissant, je pense que prendre de la distance est probablement la bonne solution, en espérant que quand tout ça sera passé, au moins des choses irréversibles ne se seront pas faites. Donc, je trouve que Dylan a raison.
Merci beaucoup Dylan d'être venu nous parler de ta famille et de ta relation avec ta sœur. On est avec Manuel qui nous appelle de Châtenois-les-Forges dans le territoire de Belfort. Bonjour Manuel.
Bonjour à tous.
Toi, tu es comédienne. Manuel, est-ce qu'on arrive à discuter de manière apaisée dans ta famille?
Non.
Non.
De manière apaisée, je disais, nous c'est un peu bizarre que les trois enfants, ils sont... En courant dès que ça a été
possible. Alors Manuel, on va essayer de te rappeler, parce que là on t'entend plus du tout, pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à parler de manière apaisée. Viviane, on le disait, c'est pas forcément le Covid, hein. Il peut y avoir des familles où ça n'a jamais tout simplement été apaisé.
Ah bah bien sûr, je pense qu'on peut quand même dire que les conflits dans les familles ça existe, et que le Covid, que ce soit dans les couples, dans les familles, entre les parents et les enfants, ne fait qu'accentuer les choses. Je pense pas que ça va créer de toutes parts un conflit, parce que quand on est harmonieux, on est quand même à peu près en phase. Et donc c'est toujours étonnant de voir des gens qui peuvent à ce point-là être déphasés, alors qu'a priori ils ont quand même beaucoup de racines communes, si je puis dire.
On a retrouvé Manuel qui est toujours dans le territoire de Belfort.
Alors,
Manuel, tu penses qu'il faut anticiper les réactions de chacun?
Oui, ce que je disais, nous on a trois enfants et ils sont tout de suite allés se faire vacciner dès qu'il y a eu la possibilité, les jeunes, et on a les personnes âgées qui refusent de se faire vacciner chez nous.
D'accord.
Donc ils ont plus de 80 ans tous les deux, ils veulent pas se faire vacciner, ça sert à rien, qu'ils voient personne. Et nous on a décidé à chaque réunion de famille, votre médecin avait tout à fait raison, sur les sujets importants, la politique, la religion, le reste, de dire au départ on s'aime. Voilà, on s'aime, on a une famille, on s'aime, et après on peut discuter. Donc le postulat de départ, c'est on s'aime, et après on essaie de comprendre les uns les autres. On est.
Tu répètes ça avant chaque déjeuner ou chaque dîner, tu dis.
Voilà, exactement. On dit, on part du principe qu'on ne se fâchera pas pour ce genre de choses, et puis on essaie d'écouter les points de vue de tout le monde, même si on ne les comprend pas, même si on essaie de faire argument contre argument, de parler de nos expériences et tout. Mais moi, je crois que le conflit, c'est bon aussi, c'est bon la discussion, de discuter, de prendre les avis de tout le monde, parce qu'on est toujours, surtout sur des sujets aussi importants, extrêmement tranchés, on vient avec ses convictions, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, nous, on essaie d'élargir, de parler de tout, et voilà, sur le Covid, on a vraiment un gros conflit, c'est que nous, on comprend pas que les gens ne veuillent pas se faire vacciner, parce que nous, on n'a pas peur du Covid, on a peur du reconfinement, parce que vous savez que les comédiens, on a été arrêtés pendant 8 mois, bien sûr. Voilà, on n'a pas pu travailler, donc nous, on ne comprend pas que les gens ne veuillent pas se faire vacciner, tout simplement pour éviter le confinement, c'est pas, même pas pour, pour éviter de d'attraper une forme grave, puisqu'on est très peu, je vais dire, touché par ça, on espère en tout cas, mais on ne veut plus de confinement, donc on essaie de leur faire voir cet argument-là, de dire c'est pas forcément pour éviter la maladie, c'est pas forcément pour éviter la transmission, c'est parce qu'on ne veut plus être reconfiné une quatrième fois, et qu'il faut sauver notre travail, qu'il faut qu'ils se mettent à notre place par rapport à ces gens qui ont été arrêtés, je pense aux restaurateurs, aux comédiens, enfin tous ces métiers qui ont été arrêtés pendant très longtemps. Et donc voilà, on essaie de faire voir cet argument qui n'est pas un argument, j'allais dire, de sensation. Et votre médecin avait tout à fait raison. C'est à partir du moment où on rentre dans l'irrationnel, là c'est comme la croyance. Vous pouvez pas opposer des arguments scientifiques.
Mais Manuel, c'est intéressant quand toi tu disais, parce que Viviane, Manuel, elle dit on s'aime. Ça veut dire que on doit fréquenter que des gens qu'on aime.
Mais je pense, je sais pas si c'est ce qu'elle veut dire là.
Je
pense que c'est une autre paire de manches. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est important de préserver. Et donc, si vous voulez préserver pour après, parce qu'au fond c'est ça, il faut pas aller trop dans le conflit. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend ce qu'on entend dans le conflit. Quand vous dites c'est bien le conflit, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a des niveaux de conflictualité. C'est-à-dire, il y a le conflit, on est pas d'accord, on discute, et ça peut même être sympa, enfin c'est quand même chouette de pouvoir parler avec quelqu'un qui n'est pas d'accord quand même, sinon où est-ce qu'on va? Mais il y a le conflit vraiment dur, où les gens se blessent, se ferment, veulent plus voir, voilà, c'est ça qu'on veut pas. Donc je veux dire, il faut pas pousser le conflit jusqu'à une espèce de rupture où ça va être difficile de recoller les morceaux. Donc c'est tout l'art d'arriver à parler de choses dont on n'est pas d'accord, sans aller jusqu'à une rupture, et je pense que c'est assez
intéressant,
surtout à l'intérieur d'une famille, parce que une famille entre guillemets, même si bien sûr chacun a son autonomie, c'est quand même important, les liens familiaux. Et donc là, une rupture dans les familles, c'est quelque chose de très difficile ensuite à reconstruire. Donc c'est pour ça que je trouve que vos auditeurs, finalement, j'ai pas besoin de leur donner des conseils, parce que somme
ils avaient géré très bien tout seul finalement, les auditeurs. Viviane Covesmaf Masfeti, pardon, psychiatre et épidémiologiste, un grand merci d'avoir été avec nous sur RMC. Un grand merci à Manuel d'être venu nous parler de sa famille, où on répète qu'on s'aime avant même de commencer à discuter, ce qui permet d'apaiser les relations. Dans un instant, on va parler d'Amazon avec Emmanuel Le Chypre et avec Laurent Neumann. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, pardon, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h et on revit les meilleurs moments de Neumann Le Chypre. Alors peut-être que vous êtes à table, que vous êtes en pause déjeuner en train de nous écouter. On va parler de la tradition du repas. Selon une étude publiée dans Le Parisien, la crise sanitaire a fait changer les pratiques alimentaires. On mange désormais beaucoup plus tout seul et c'est pas du tout une honte. Certains s'ennuient à table et préfèrent regarder la télé. Le plateau série serait même une petite fête personnelle. Alors la tradition du repas familial à table se perd. Est-ce que ça vous inquiète, Laurent Neumann? Lui est très, très, très inquiet.
Ah non, mais moi je suis surtout très 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 dîner familial. Alors c'est vrai que mes enfants ont quitté le foyer, ils vivent leur propre vie maintenant, mais quand ils étaient sous le même toit que nous, bah oui, le dîner c'était un rituel, absolument, il fallait dîner. Et quand je dis dîner, c'était dîner sans téléphone, dîner sans la télévision, dîner pour partager.
Donc, à table.
Oui, la table, tous les quatre, etc., avec des règles, absolument. C'était le moment où on se retrouvait pour échanger. manger, partager, c'est ça un dîner familial. En plus, je pense que contrairement à ce qu'on dit, le dîner, c'est pas juste le dîner tous les quatre à table. Le dîner, il commence avant, il commence quand on prépare le dîner, la cuisine, il commence quand on met la table, et il se termine même pas quand on a fini de manger, mais faut débarrasser. Donc
ça dure deux jours.
Bah oui, c'est le dîner, c'est un ensemble de choses.
Est-ce que tout le monde mange la même chose? C'est très important.
Et tout le monde mange la même chose, absolument, oui.
Emmanuel, chez toi, c'est le bazar.
On a eu toute la saison l'économie Belle des Champs. Maintenant, on a le dîner, la Miricorée. C'est-à-dire, en gros, c'est le paradis.
Non, c'est pas ça, c'est une pub Nutella.
Mais non, mais arrête, attends, tout le monde prépare le dîner, tous en famille. Et puis après, on débarrasse ensemble, on fait la vaisselle dans la bonne humeur, on a ri. On a tellement ri. Et passé un tellement bon moment. Sans la télé, sans les téléphones. Non, mais alors, c'est monsieur parfait, Laurent, ça, c'est sûr.
Non, mais t'as le droit d'en rire.
Mais non, mais franchement, mais la réalité, Laurent, très bien si ça se passe comme ça. Mais la réalité, c'est pas celle-là. D'abord, le rapport à la nourriture, il a considérablement changé. On est passé, d'une économie de l'offre à une économie de la demande. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, les repas
à table.
Même
à table, tu fais l'économie.
Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, on était tous réunis à table pour manger ce que la nature nous offrait. Il y avait pas un choix illimité. Maintenant, il y a un choix absolument illimité. Deux, les emplois du temps aujourd'hui, je suis désolé, font que si tu as la chance d'avoir tes deux parents qui rentrent à la maison avant 18h, je pense pas que ce soit la majorité des familles. Donc le repas préparé, machin et tout, etc., où tout le monde mange à table, je pense que c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de familles? On fait manger les enfants d'abord, et c'est pas très grave. On peut discuter avec eux pendant qu'ils mangent. Et puis toi, avec ta femme, tu manges après, ce qui est très bien aussi pour ta vie de couple, parce qu'il y en a marre de des mômes qui bouffent toute ta vie, si tu veux. Et puis tu crois que les gens, ils ont des trucs intéressants tous les soirs à raconter?
Est-ce que tu crois
que les gens, le sacro-saint dîner de famille, mais la réalité, est-ce que les gens, ils ont tous les soirs des trucs intéressants à dire?
Chez nous.
Ah, mais franchement, mange chez moi, c'est très intéressant. C'est mes journées sont très intéressantes.
Sûr.
Ah
oui. Mais bien dans sûr, tu demandes à ton gamin s'il a passé une bonne journée, il dit oui, t'as mangé quoi à la cantine? Je sais plus. Enfin, tu vois, voilà, à un moment, ça, cette espèce de sacralisation, d'idéologisation sur pas de famille, franchement, moi, je veux bien. Et puis alors, est-ce qu'on est obligé de manger tous pareil? Franchement, non. Moi, je pense qu'on est obligé de manger sain. Ça, oui. Et moi, j'ai des enfants. Là, par exemple, ce week-end, j'en ai un qui adore la purée de céleri. J'en ai un autre qui la déteste et qui préfère les petits pois. Avec le même poisson, il y en a un, je lui ai fait des petits pois et l'autre, je lui ai fait la purée de céleri. C'est pas
Emmanuel, je savais qu'on s'engueulerait sur la politique, mais je pensais pas qu'on allait s'engueuler là-dessus. C'est pas la peine m'aboyer dessus.
Tu es très méchant, Laurent Neumann.
Franchement, je trouve que cette histoire de repas de famille, c'est une bonne façon. On se dit, on fait nos repas de famille ensemble. Mais le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? Le reste du temps, est-ce que t'échanges? Le reste du temps, est-ce que tu partages des moments? Donc, je trouve que ce dédouaner, genre, on fait le repas de famille, etc. Je pense qu'une fois que t'as fait ça, t'as pas tout fait. Et voilà. Et je pense qu'en plus, quand tu regardes, je termine avec ça, ce que disent beaucoup de psychologues que j'ai lus, ils te disent, mais surtout, faut pas aborder le soir les sujets qui fâchent. Alors à quoi, de quoi on cause?
Non, mais je vais te dire,
tu n'abordes pas les problèmes scolaires des enfants à table. C'est pas vrai, c'est pas bien pour eux.
Sociologiquement, c'est intéressant quand même ce qui se passe, non? Alors, Ronan Chastelier, vous êtes sociologue. Il y a quand même Emmanuel qui engueule Laurent parce que Laurent mange à table. C'est quand même sociologiquement intéressant.
À propos d'engueulade ou du dîner
Il
y a aussi une sociologie du fight. On peut en parler. Mais je pense qu'effectivement, la sacro-sainte convivialité à table, etc., je crois que c'est une vision peut-être un peu idyllique. Et effectivement, les choses ont passablement changé. Déjà, il y a le téléphone à table. Enfin, je veux dire.
Interdit chez moi, totalement interdit. Vous faites comme vous voulez chez vous. Moi, j'ai le droit de dire c'est
une
table.
Pratique des Français, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui s'ennuient à table. Il faut bien le dire. Puis les parents aussi donnent l'exemple. Parfois, ils téléphonent, puis les enfants regardent les parents téléphoner, etc. Donc, il y avait déjà le téléphone à table qui avait été un bon vieux coup de pied dans la convivialité familiale. Et là, il y a effectivement le phénomène nouveau qui est Netflix plus Deliveroo égale plaisir solitaire, joie solitaire à table. Enfin, je cite deux marques parce qu'elles sont un peu iconiques, mais si vous voulez, il y a comme ça une envie chez beaucoup de gens de se construire une espèce d'anti-moment. La convivialité obligatoire, le collectif obligatoire après les longues périodes un peu ennuyeuses du confinement, il semblerait que ça ait donné ça, en fait. Dialectiquement, on est passé à quelque chose qui est, si on se faisait un pur plaisir solitaire, là, un espèce de plaisir antisocial assumé, voilà, c'est ça l'idée, en fait, qu'il y a derrière, mais qui va au aussi de pair avec des dîners un peu plus conviviaux, etc. Ça ne veut pas dire que le repas antisocial va remplacer l'autre, qui est éminemment plus convivial.
Si la pratique du téléphone a autant explosé à table, c'est bien que les gens, ils n'ont rien à se dire. Tout le monde n'a pas la conversation de Laurent Neumann.
On n'a pas la conversation de Laurent Neumann, et ça, c'est clair. Voici désormais un des sujets de débat préférés de Laurent et Emmanuel. Amazon voudrait s'installer près du pont du Gard. Résultat, les habitants sont contre et ils ont manifesté à la fin du mois de mai dernier. Êtes-vous pour ou contre le développement du géant du net en France? C'était le débat du 30 mai. Pour Emmanuel, c'est oui, c'est bon pour le pouvoir d'achat et l'emploi.
Bah, moi, je pense que c'est une question qui se pose. Enfin, ça me paraît invraisemblable.
Bah, je la pose quand même.
Mais qu'on se pose encore cette question, c'est quand même effarant. On peut pas aller contre le sens de l'histoire.
Ah bon?
Le sens de l'histoire, c'est quoi? C'est que t'as 70% des Français qui aujourd'hui achètent des biens sur Internet. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux, que Amazon, c'est pas bien. Mais honnêtement, l'achat sur Internet, c'est l'avenir. Ça répond aux besoins des consommateurs. Et il n'y a pas que Amazon. Encore une fois, tout le monde croit que Amazon, c'est le grand méchant, etc. Je rappelle que Amazon, c'est que 1%, par exemple, du commerce en France. C'est un livre sur 10 seulement. Je rappelle que Amazon fait vivre beaucoup de petits sites qui sont des sites français, qui fabriquent des produits français. Donc, moi, je veux bien qu'on interdise Amazon, qu'on dise c'est mauvais pour le petit commerce, etc. Mais regardez ce qui s'est passé pendant la crise Covid, c'est très intéressant. Ceux qui s'en sont sortis et ceux qui s'en sont pas sortis. C'est pas la lutte des gros contre les petits, c'est pas le gros Amazon qui a mangé le petit commerce. Le petit commerce qui s'est digitalisé, et ça a été un des grands effets de cette crise, et tant mieux. Ils ont fait 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. Tous les petits magasins, vous savez, sur toutes ces plateformes, notamment les plateformes organisées par les mairies, etc. Un, parce que tu vends plus par digital, et deux, t'as plus de gens qui viennent chez toi. Donc, 20% d'augmentation du chiffre d'affaires pour ces petits commerces qui sont digitalisés. Exactement comme Amazon. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce que demain, ton commerce, il sera digital ou pas digital? Voilà, c'est tout. Mais en penser que on va défendre le petit commerce, les petits commerçants et les emplois et le pouvoir d'achat en maintenant, en refusant qu'Amazon vienne en France, c'est totalement délirant. C'est has-been. Moi, je veux bien qu'on discute après de l'implantation. Peut-être que l'endroit est peut-être tellement beau que voilà, et qu'on peut peut-être implanter ailleurs. Enfin, ne pas vouloir par principe un entrepôt d'Amazon, c'est ne pas vouloir de l'emploi, c'est refuser des gains de pouvoir d'achat et du service pour les consommateurs.
Une précision, tu parles de l'endroit de la manifestation, hein, entre le Mont Ventoux et le Pont du Gard. Ceci dit, j'ai vu des banderoles lors de la manifestation qui disaient stop Amazon ici ou ailleurs.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que pour ne rien vous cacher, Vincent Nouzille, qu'on a entendu là, le président de l'association,
Primavera.
Il se trouve que je le connais très bien, c'est un grand journaliste économique, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect, si son argument, c'est l'argument, c'est pas là qu'il faut le mettre, etc., je veux bien l'entendre, mais si son argument, c'est Amazon, c'est destructeur d'emplois, c'est de l'esclavage, etc. Putain, je dis Vincent, reviens à la raison, quoi. Non, Laurent, c'est pas possible.
Alors, je t'ai pas interrompu.
C'est vrai.
D'abord, l'implantation de cet entrepôt. Je suis allé regarder, c'est 14 hectares de terres agricoles qui vont être supprimées. Dans un département qui est dramatiquement touché par les inondations à cause de l'artificialisation des sols.
Et par le chômage.
Déjà, rien que pour cette raison, il est normal que localement, les gens se posent la question de savoir s'il faut encore plus artificialiser les sols au risque d'avoir encore plus d'inondations demain. Première chose. Deuxième chose, tu me dis Amazon, c'est bon pour l'emploi.
Non, non.
Alors, moi, je suis allé consulter les deux dernières études dont on dispose. La plus récente, c'est une étude du ministère du numérique. D'accord, elle date de 2018. Un emploi créé par Amazon, 2,2 emplois supprimés dans d'autres activités. Mais je me suis dit, oulala, ça sent mauvais cette étude. Je vais quand même aller vérifier ce qui s'est passé aux États-Unis. Dernière étude en date, écoutez bien. Entre 2002 et 2016, d'accord, Amazon a créé 178 000 emplois dans le e-commerce. 448 000 emplois ont été détruits dans le même temps dans la grande distribution. Je ne parle pas des petits commerces, je parle dans la grande distribution. Donc, est-ce que Amazon, ça crée de l'emploi? Oui. Est-ce que ça en détruit? Oui. Un emploi créé, trois emplois détruits. Troisième chose, ce que tu as volontairement sans doute omis de ta démonstration, mon petit Emmanuel, c'est que non seulement Amazon, c'est pas bon pour l'environnement et c'est pas bon pour l'emploi, mais je te fais la démonstration quand tu veux que c'est pas bon non plus pour les finances publiques, parce que Amazon gagne énormément d'argent, et notamment pendant cette année du Covid où le chiffre d'affaires d'Amazon a explosé. Mais l'essentiel des gains d'Amazon en France, figure-toi, ils sont délocalisés vers le Luxembourg, et donc Amazon ne paye pas les impôts qu'il devrait payer en France. Pour ces trois raisons-là, moi, je suis désolé, non. Je comprends les habitants du Gard qui disent non.
Mais attends, je peux pas laisser dire.
Tu vas avoir le temps de répondre.
Il y a
Daniel qui nous attend dans le Gard, justement.
Juste pour terminer sur le côté Amazon, c'est pas écolo. C'est totalement bidon, c'est totalement faux ce que tu dis. Amazon, c'est l'entreprise de commerce la plus écolo, et pour une raison très simple.
Je vais te dire.
Amazon, c'est très simple. Comment ça fonctionne? T'as un camion qui va livrer 20 clients.
Ouais.
Et ben je peux te dire
Amazon,
que un seul camion qui va livrer 20 clients, c'est un peu plus écolo que 20 personnes qui prennent leur bagnole pour aller au centre commercial et aller acheter le produit qui se serait fait livrer par Amazon. Donc qu'on me dise pas, si tu veux, que Amazon c'est le grand ennemi
Amazon
de l'écologie.
On en parle tout de suite.
C'est pas vrai, Laurent, Emmanuel, on en parle tout de suite, mais je veux tout de suite qu'on aille retrouver rapidement Daniel qui est dans le Gard. Salut Daniel.
Bonjour
Daniel, bienvenue sur RMC, sur RMC Story. Merci d'être avec nous.
Et on est toujours de bonne foi.
Voilà.
On n'est pas toujours de bonne foi, mais on est toujours de bonne humeur.
C'est bien.
Toi, tu es à Beaucaire, dans le Gard.
Ouais, c'est ça.
Daniel.
Beaucaire, dans le Gard. Je suis pas loin du pont du Gard et donc cette implantation de cet entrepôt.
Eh oui. Bon.
Et moi, ce que je vois comme Manu au niveau de l'emploi, je trouve que ça peut amener que du bien dans ce coin, parce que étant donné que toute cette région vit de la restauration, point de vue boulot, il n'y a pas énormément, donc ça fait toujours des emplois, et pourquoi pas plus, j'ai entendu 100, je croyais que c'était plus que ça.
Une centaine.
Alors manifester, moi je veux bien qu'on manifeste pour ce projet, mais moi je vois aussi, on va me parler de destruction des endroits, quand je vois ce qui a été fait au niveau du pont du Gard pour fabriquer tous ces parkings, qui a été dévastée, cette garrigue autour de ce pont du Gard pour les touristes. Alors, je ne sais pas lequel est le mieux, je ne sais pas, je ne connais pas à fond cette histoire, mais moi, ce que je vois, c'est surtout l'emploi que ça peut dégager au niveau...
Daniel, la ville la plus proche, qui est
Rémoulin, c'est beaucoup de restauration, il n'y a pas beaucoup de travail dans ce coin. Après, il y a Avignon qui n'est pas trop loin, et Nîmes,
Daniel, juste pour te répondre, je t'ai donné le chiffre tout à l'heure.
Oui.
Ces entrepôts Amazon, à quelques encablures du pont du Gard, c'est 14 hectares de terres agricoles qui vont être supprimées. Voilà.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, c'est un choix.
14 hectares.
On en a besoin. Tout est discutable. Mais moi, ce que je vois, c'est l'emploi. Et qu'on arrête de dire que ça va détruire énormément de choses.
Ah bah ça va créer des emplois dans le Gard, mais ça va en supprimer ailleurs.
C'est la fin de Neumann Le Chypre pour aujourd'hui et pour toujours. C'était un plaisir d'être avec vous cette saison. Je vous dis à très bientôt. Lundi, vous retrouvez Marie Régnier et Martin Bourdin. C'est bon de se retrouver midi, 15h. Tout de suite, c'est le Tour de France avec Christophe Cessieux. Christophe, c'est une étape pour les sprinteurs, un jeu auquel Cavendish est très très fort.
Ah oui, plutôt pas mal, effectivement, depuis le début de ce Tour de France. Il en est déjà à 4 victoires d'étape, Mark Cavendish, et il tentera tout à l'heure de devenir le recordman absolu des victoires d'étape sur les routes du Tour, avec 35 succès. Le peloton est en direction de Libourne, il s'était lancé de Mourenx tout à l'heure. Il reste encore 138 km à parcourir, et effectivement, Cavendish est le grandissime favori. On en parle dans un instant dans l'intégral Tour, jusqu'à 18h sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.